19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir les amis auditeurs, bonsoir à tous, c'est parti, vous le savez, pour analyser, décrypter et commenter l'actualité. Ça se passe ici tous les soirs sur Beurre FM, dans les informés, jusqu'à 20h. Et au menu, ce que je vous propose ce soir, eh bien pour vous embarquer, mes chers amis, oui toujours avec des choses qui provoquent la polémique. Nous reviendrons sur, alors, les trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Alors, le pass vaccinal bien sûr, les propos d'Emmanuel Macron, emmerder ceux qui ne sont les non-vaccinés. Tiens, tiens, que s'est-il passé? Nous tenterons de comprendre, évidemment, ce qu'a bien pu traverser, en tout cas, l'esprit d'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Ensuite, nous reviendrons sur le coronavirus et les propos, les déclarations choc du professeur Raoult. Il faut être clair, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il tape fort aussi, y compris sur la presse. Et enfin, nous reviendrons aussi sur un autre sujet d'actualité. C'est celui qui a retenu aussi notre attention. En gros, quelle organisation doit-on mener aujourd'hui pour éviter le pire? Allez, vous le savez, à 19h, on démarre avec le billet d'humeur de Maître Fabrice Divisio. À 19h05 environ, le maire de Villetaneuse sera avec nous avec son manifeste. Quelle France en héritage? Oui, que reste-t-il de cette France, de cet héritage? 19h30 aussi, autre quoi de neuf, le billet d'humeur du docteur Majid. C'est aussi une chef de service à l'hôpital Sainte-Camille. Voilà le programme et le menu que je vous propose, il est bien riche. Et tout à l'heure, vous le savez, sans oublier deux choses. Oh là là, j'allais oublier évidemment. 01 53 48 3000, vous aussi, vous êtes prioritaire. Les auditeurs qui interviennent à tout moment, partout en France, et le face-à-face avec Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de police. J'ai pas fait de faute, non? C'est bien ça?
Oui. Tu fais ça.
Ah ouais, c'est, ouais, voilà, rassurez-moi. Et enfin, Philippe Nadji-Bouriaki, qui est un élu de la région, qui est écolo. Ça, c'est le face-à-face sur les sujets qui ont retenu notre attention. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est parti tout de suite pour le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9, comme chaque mercredi, nous démarrons cette toute nouvelle rentrée avec celui qu'on connaît, qu'on ne présente plus, Maître Fabrice Divisio, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, et la signature de ce billet d'humeur concernant le Quad 9, eh bien, je crois qu'il est assez corsé de ce que je comprends. Eh bien, on vous écoute, c'est parti, mon cher Maître Fabrice Divisio.
Eh bien, mon cher Adil, d'abord, ma première question, êtes-vous un bon citoyen?
Ben, je crois.
Êtes-vous un citoyen du coup? En effet, depuis hier soir, nous savons qu'est citoyen uniquement celui qui est responsable.
Oui.
Dès lors, je me permets de vous poser la question, et ça devrait être d'ailleurs une question que chacun devrait poser à son voisin, au même titre que celle devenue d'usage, es-tu vacciné contre le Covid?
Ah!
Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Peu importe en matière que le pass sanitaire soit une passoire, que le pass vaccinal nous mettra dans une impasse, dès lors, j'attends de toi que tu sois responsable. Pour moi, bien sûr, mais aussi pour toi, car je ne peux accepter que tu te perdes dans les limbes de l'irresponsabilité, et surtout pour les soignants épuisés. Alors, mon cher Adil, je vous pose la question, êtes-vous responsable? Oui, je présume que vous l'êtes.
Oui.
Mais en êtes-vous vraiment certain?
Je ne sais pas.
Examinons. Fumez-vous? Sans doute non.
Non.
Alors, c'est bien. C'est un point sur l'échelle de responsabilité. Mais côtoyez-vous des gens qui fument?
Oui.
Si c'est le cas, vous perdez un demi-point. En ce que vous encouragez l'irresponsabilité, et pouvez développer des maladies à cause du tabagisme passif. Rappelons ici que le tabac est la première cause de mortalité évitable en France.
Oui.
Ensuite, qui êtes-vous? Si ce n'est pas le cas, je vous félicite. 3 points en plus sur l'échelle de responsabilité.
Ah.
Car on sait que le ski, mon cher Adil, a généré non moins de 143 112 blessés sur une seule saison, dont certains graves, encombrant les services d'urgence déjà à Cran.
Oui.
Roulez-vous en voiture?
Si oui.
C'est le cas, vous êtes un irresponsable, car on sait que plus de 50 000 accidents de la route ont lieu chaque année et que 27 000 personnes seront hospitalisées, tandis que près de 3 500 ont perdu la vie.
Oui.
Encore pire, connaissez-vous parmi vos amis des gens qui boivent l'alcool? Je ne vous pose pas la question, car je vous sais ô combien responsable. Mais si vous en connaissez, alors là, mon cher Adil, je ne peux que vous encourager à ne plus fréquenter ces irresponsables. Car figurez-vous que dans une note de 2015, Santé publique France déclarait que l'alcool était première cause d'hospitalisation en France. Oui, Adil, la première cause. Quelle irresponsabilité quand on y pense. Et juste pour enfoncer un peu le clou, 10% des séjours de psychiatrie Santé publique France sont représentés par la consommation excessive d'alcool. Oui. 10% d'une spécialité
saturée,
débordée, à bout de nerfs, comme l'avait révélé au grand public le magazine Pièce à conviction sur France 3 en 2019, qui titrait « Psychiatrie, le grand naufrage ».
Oui.
Enfin, mon cher Adil, rassurez-moi encore, vous ne mangez pas gras, au moins, pas de rouge, pas d'aliments transformés.
Non.
Et vous êtes un sportif talentueux et assidu. Oui. Vous venez, si c'est le cas, cher ami, de remonter d'au moins 2
Je
Mais si ce n'est pas le cas, alors vous êtes le pire des irresponsables et je ne devrais même pas vous adresser la parole. Car en effet, en 2019, la Fédération française de cardiologie, qui crée dans un communiqué de presse « Cœur des Français, attention danger », elle disait « 400 morts par jour, un bilan les plus alarmants pour les maladies cardiovasculaires qui ne cessent de s'alourdir en France et qui nous concernent tous ». Et tenez-vous bien, les maladies cardiovasculaires, c'est 140 000 morts par an, c'est-à-dire plus que le Covid. J'ai dû regarder ces chiffres 3 fois, car je n'imaginais pas qu'une pathologie puisse faire plus de morts que ce fichu virus chinois.
Ouais,
les cardiologues, pourtant, disaient « L'amélioration de la prévention primordiale peut permettre de prévenir 80% des infarctus.
Bah, »
80% à Lille, 80% pour nos soignants, 80% pour notre économie, notre système de santé si généreux. Morale de l'histoire, il semble que nous soyons dans un pays d'irresponsables qui s'ignorent, ou plutôt qui s'ignoraient, car désormais nous le savons, et dans le monde d'après, tout comportement sera scruté, examiné, et s'il est conforme à la morale républicaine, vous aurez des bons points de citoyenneté, et si ce n'est pas le cas, vous aurez des privations de droits et libertés, car au fond, ce n'est pas à la majorité responsable de payer pour la minorité irresponsable. Jusqu'ici, on était toujours le con de quelqu'un. Voici désormais que nous serons tous l'irresponsable de quelqu'un, et je ne sais pas si l'irresponsabilité tue, mais la connerie, elle, c'est certain que non, sans quoi la France compterait depuis 18 mois une hécatombe d'hommes politiques tombés au champ du déshonneur. L'irresponsable en chef vous salue du haut de sa sous-citoyenneté.
Qu'est-ce que... Maître Fabrice Divisio, vous êtes applaudi en plus par les débatteurs. Vous êtes applaudi par Philippe Ladjiboyeki, par Jean-Pierre Colombiès. Qu'est-ce que j'ai ri, mon cher maître? Qu'est-ce que j'ai ri? Toujours une signature corrosive et satirique. C'est ce qui vous embarque, j'ai l'impression.
C'est ça, exactement.
Absolument. À mercredi prochain, sans faute, dans votre coin de neuf. Prenez soin de vous, mon cher maître.
Et vous aussi, quoi que irresponsable, je prendrai soin de moi quand même.
Ouais, c'est ça. Allez, à très bientôt, maître Fabrice Divisio. Tout de suite, c'est l'invité du jour.
Les informés. L'interview.
Et l'interview dans les informés avant de retrouver le face-à-face. Il est 19h07 précisément. C'est Dieunor Excellent, qui est le maire de la ville de Villetaneuse. Bonjour, mon cher maire.
Bonsoir, mon cher Adil Korkian. Merci pour cette invitation.
Avec plaisir.
Et bien sûr, bonne année 2022 à vous et à vos auditrices et auditeurs qui vous écoute régulièrement, et je le constate, et notamment à Villetaneuse aussi.
À Villetaneuse.
Et les Villetaneusiens qui vous écoutent attentivement.
Et ils nous écoutent, on leur souhaite aussi une bonne année, bonne santé. Monsieur Dieunor Excellent, monsieur le maire, vous avez décidé de rédiger un manifeste qui s'appelle « Quelle France en héritage ?» Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce manifeste? Pourquoi?
Premièrement, comme je l'ai écrit dans ce manifeste, c'est que je m'interrogeais. Et j'ai été saisi justement par le climat nauséabond du discours politique, notamment porté par une extrême droite bien remontée, revigorée avec la surexposition médiatique de Monsieur Z et sa bande, comme je dis, qui squattent nos écrans. Et à travers des discussions que j'ai pu avoir avec les miens, avec mes enfants, notamment mes deux aînés qui voteront pour la première fois aux élections présidentielles en 2022, je pouvais pas ne pas réagir parce que on était tous indignés justement par ce discours qui est très inquiétant, un projet très inquiétant, vraiment des propos complètement délirants, haineux, xénophobes, misogynes, racistes, vous connaissez toute la liste de qualificatifs.
Et bon, on va en parler justement. Vous dites dans votre manifeste comme beaucoup.
Je n'ai pas souhaité justement en faire un sujet principal de Monsieur Z en l'occurrence. Je me suis dit, en discutant avec aussi des amis, mes proches, je me dis, mais justement, mais la meilleure réponse, c'est de parler de ton parcours, de parler aussi du fait que, la France, elle est plurielle, elle n'est pas celle que soit les pères Zemmour avec un...
Mais votre manifeste, quand même, tout de même, il arrive en pleine campagne présidentielle. Il arrive en pleine campagne présidentielle, votre manifeste, Quelle France en héritage. Il y a quand même un... Je veux dire, quel est l'objet de votre manifeste? Est-ce que c'est pour interpeller, pour sensibiliser, pour bousculer les lignes? Quel est justement l'intérêt de ce manifeste? Ou l'objet de ce manifeste?
L'objet, c'est d'avoir cette expression citoyenne, de dire que l'héritage de la France, c'est moi, c'est M. Zemmour, Hollande, c'est vous aussi, Monsieur Farken.
Oui.
C'est, vous avez la nationalité française.
Ben, moi. Oui. Oui.
Voilà. Donc vous êtes français. Un point, c'est tout. C'est la France dans toute sa diversité, dans cette France plurielle, et c'est ça l'héritage aussi de la France, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de Napoléon et de bien d'autres avant lui, c'est l'histoire du christianisme, c'est toutes ces histoires qui se croisent, c'est l'histoire de la colonisation, c'est la France dans toute sa oui. diversité culturelle.
Mais vous dites dans le premier chapitre, dans ce qui vous indigne,
j'ai une part de cet héritage, ouais.
Monsieur le maire,
parce que je suis un enfant de la République naturalisée.
Monsieur le maire, vous m'entendez?
Pleinement français.
Monsieur le maire, ce qui m'indigne, vous dites comme beaucoup de citoyens, j'ai voté Emmanuel Macron au second tour des élections présidentielles de 2017. Sans être pour autant complètement dupe, vous dites, j'espérais contempler, évidemment, que seraient-ce les prémices du nouveau monde. Et ensuite, un peu plus loin, vous dites effectivement que ce manifeste traduit quelque part l'urgence qui m'a habité il y a quelques années. Et vous dites, la stratégie de diabolisation du FN par une certaine lepénisation des esprits. On y est aujourd'hui. On peut considérer que Marine Le Pen est un parti comme les autres, je vous pose la question, et que effectivement, cette diabolisation du FN n'existe plus du tout dans le paysage politique.
Non, justement, parce que la parole raciste est tellement libérée, elle est tellement la preuve, je dis, M. Zemmour, il squatte nos écrans depuis plusieurs dizaines d'années, et il a pu porter cette parole à travers ses ouvrages, hein, qui sont vendus, qui sont lus, vous voyez, un tel individu arrive à mettre plus de 10 000 personnes dans une salle et pour proférer un discours avec tous les qualificatifs qu'on a dit tout à l'heure. C'est quand même très inquiétant. Et on voit vraiment que cette lepénisation des esprits a bien fonctionné aujourd'hui, ce qui fait qu'on retrouve M. Zemmour sommé à un niveau aussi haut.
Alors,
on voit que l'extrême droite même se renforce finalement. C'est-à-dire que même des personnes qu'on n'aurait peut-être pas forcément soupçonné de vouloir adhérer à cette idéologie, aujourd'hui le font sous d'autres formes. Et c'est l'ensemble justement de cette extrême droite qui s'exprime à travers le discours d'Éric Zemmour.
Monsieur le maire, vous dites dans votre manifeste...
L'objet de mon manifeste.
Justement, non mais je l'ai lu entièrement, très rapidement. Votre manifeste, à un moment, vous dites le séparatisme social est une plaie pour les banlieues populaires. Qu'est-ce qui obsède justement les acteurs politiques concernant le séparatisme social? Vous dites aussi que ne faut-il pas rappeler également aux professionnels de l'amnésie volontaire que la liberté de religion, de culte, de croyance est un droit fondamental dans notre pays, en soulevant un point d'interrogation. L'une de notre plus grandes lois, c'est de celle de 1905, reconnaît la liberté religieuse. Monsieur le maire.
Oui, ben, force est de constater dans les médias aujourd'hui la question sur l'islam, il y aurait une forme de séparatisme religieux en France, notamment dans nos quartiers populaires. Donc moi, je m'inscris en faux parce que c'est pas comme ça qu'il faut poser le sujet. Aujourd'hui, moi, je parle de séparatisme social. Aujourd'hui, la problématique de nos banlieues, c'est le manque de services publics. La problématique de nos banlieues, c'est cette capacité aussi à construire de la mixité sociale. La problématique de nos banlieues, c'est aussi cette capacité à porter des politiques publiques qui corrigent toutes les inégalités qui sont criantes, que tout le monde connaît les chiffres, tout le monde les analyse, mais pas grand monde apporte des solutions pour les corriger. La réalité de nos quartiers populaires, c'est pas la réalité de la France métropolitaine. Les chiffres sont clairs.
Alors, d'après vous, alors comment, vous savez, nos auditeurs régulièrement
sont beaucoup plus importants.
Ouais, justement,
c'est vrai que
il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne.
De certaines communautés ou de certaines pratiques religieuses sont forcément plus visibles, donc on met le cœur sur là-dessus. Bon. Alors que cela s'explique par de manière purement démographique. Aujourd'hui, la part de la population de nationalité étrangère dans nos villes, dans nos quartiers, ça c'est plus de 30% pour 6% en France métropolitaine. Donc forcément, si on met le curseur sur une pratique religieuse qu'on stigmatise ou certaines pratiques culturelles, oui, certains vont nous faire croire que...
N'est-ce pas trop tard?
La France est menacée ou...
Allô, monsieur le maire?
Les théories complotistes, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Oui.
Monsieur le maire, je crois que vous m'entendez... Vous ne m'entendez pas, à mon avis, il doit y avoir peut-être des difficultés sur le...
Je vais m'approcher du micro.
Oui. Attendez, oui. Parce que j'ai tenté de vous interpeller, mais je pense que vous ne m'avez pas entendu du tout.
C'est bon,
monsieur
je
le
vous maire,
est-ce que,
mieux,
est-ce, que,
mieux.
Est-ce que finalement, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il est encore temps de récupérer certaines choses, notamment les valeurs que vous soulevez vous-même de la gauche? N'est-ce pas trop tard, monsieur le maire, tout simplement?
Non, il n'est pas trop tard. Alors, dans le cadre de cette élection présidentielle ou de manière générale?
Dans le cadre des élections présidentielles et globalement, mais plutôt précisément dans le cadre de ces élections.
Alors, dans le cadre des élections présidentielles, moi, comme je le dis, je garde l'espoir, mais vraiment que je dis bien dans le dernier chapitre qu'il est encore temps. Donc, le temps, c'est vrai que nous est compté, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui serait une primaire citoyenne, où l'ensemble des candidats, aujourd'hui, on regarde les scores, personne ne fait 10%, quoi, à gauche. Ouais. Donc, il faut vraiment être stupide pour ne pas comprendre qu'à un moment donné, pour que la gauche puisse exister idéologiquement, en tout cas, porter un programme concret qui pourrait justement venir corriger toutes ces inégalités, porter un autre discours où ces valeurs sur la défense de la justice sociale, l'égalité, tout ce qu'on doit porter. Si ça doit être fait dans le cadre de cette élection, là, il n'est pas encore trop tard, mais c'est limite. Après, sur la reconstruction de la gauche après cette élection, parce que heureusement que le combat politique ne se joue pas sur une élection, au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, la gauche doit s'interroger sur cette capacité aussi à rebondir après cette élection présidentielle pour pouvoir ne pas nous laisser aussi orphelins de tout cet héritage aussi, des combats, des avancées sociales qui ont été portées par cette même gauche qui aujourd'hui est égarée, comme je le dis souvent, sur certains sujets.
Merci. Monsieur Dionor, excellent, monsieur le maire. Où peut-on retrouver votre manifeste?
Le manifeste, justement, il est publié pour l'instant. Ça sera sur le site Amazon, donc on attend juste de pouvoir le mettre en ligne. Mais les auditeurs qui souhaitent se procurer ce manifeste peuvent aussi m'envoyer un message directement sur mes réseaux sociaux ou peut-être voir par le biais de votre service. S'il y a des gens qui souhaitent avoir mes coordonnées en message privé, je peux le faire aussi dans un premier temps. Donc voilà. Après, moi, je suis disponible pour en parler plus amplement parce que c'est un sujet qui est très important, la place de la gauche, mais la place aussi des réponses concrètes politiques qu'on pourrait apporter pour ne pas avoir à voter par défaut ou à ne pas combattre politiquement l'extrême droite.
Merci Dionor, excellent. Vous êtes le maire de la ville de Villetaneuse. Quelle France en héritage. C'est votre manifeste. Merci d'avoir été avec nous dans Les Informés. Bon courage à vous. Effectivement, plein de bonnes choses. Merci, bonsoir monsieur le maire. Très vite.
Au revoir.
19h17, on marque vite précipitamment la première pub et on se retrouve tout de suite après avec nos débatteurs. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
C'est parti pour le face-à-face.
Les Informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Et bien sûr, évidemment, le 01-53-48-3000 reste prioritaire. Vous nous appelez quand vous voulez. Nous allons démarrer avec « J'ai très envie de les emmerder ». Ça, c'est les propos. Les emmerder qui? Les non-vaccinés. C'est les propos choc d'Emmanuel Macron qui, vous le savez, mesdames et messieurs, ont provoqué une nouvelle suspension de l'examen du texte sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale cette nuit, justement, entre la nuit de mardi à aujourd'hui. Ça a provoqué même un tollé, d'ailleurs, et des déclarations. C'est du mépris. Ça, c'est Valérie Pécresse, et puis, etc., etc. Bref, vous voulez réagir à ces propos, 01 53 48 3000, je vous attends. Je présente tout de suite les débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Jean-Pierre Colombiès, plaisir de vous retrouver. Comment ça va?
Bonsoir, écoutez, ça va très bien. Enfin, en tout cas, on fait tout pour l'être bien.
Absolument. Ex-commandant de police, et je ferai un peu votre pub parce que ça vaut le coup. Le testament d'un communard, ça c'est la pièce de théâtre que vous allez retrouver, une comédie.
Non, c'est
sur
pas une
scène.
Comédie. Non, c'est pas une comédie.
C'est pas une comédie.
Non, c'est pas une comédie.
Pardon, je pensais que c'était une comédie.
Non, c'est pas une comédie.
Dites-nous alors le pitch.
Bon, le pitch, c'est un homme qui était emporté par le vent de l'histoire, qui se trouve en prison, qui va être exécuté dans l'heure qui suit, et qui raconte pendant une heure dix, ce qui lui est arrivé, comment il était emporté dans ce mouvement populaire. Trop mal enseigné, trop ignoré de la révolution communarde de 1871.
Exactement.
Ça n'est pas un cours d'histoire.
Touché, la main qui touche son ventre avec quelques gouttes de sang. Là,
qui sont de vraies gouttes de sang.
Des vraies gouttes de sang. Oui, d'accord, ça ne plaisante pas.
Non, ça ne plaisante pas, on n'est pas là pour rigoler.
Le goût de la liberté, en tant qu'ex-commandant de police,
oui. Parce qu'il prend quelqu'un du
voilà,
public.
Ouais.
Vous êtes sur scène.
Non, c'est mon sang.
Jean-Pierre Colombiès, vous êtes sur scène le samedi à 21h15 du 8 janvier, donc autant dire dans quelques jours, jusqu'au 19 mars 2020.
Tout à fait.
Mais allez-y, le testament d'un communard, si vous avez envie de vous divertir, vous changer les idées.
Et de réfléchir aussi.
Parce que Jean-Pierre Colombiès, c'est quelqu'un qui amène de la réflexion. Tous les samedis à 21h15, Attendez, c'est quel théâtre ?
Darius Milhaud, dans le 19e, Porte de Pantin, pas loin de la Porte de Pantin.
Le théâtre Darius Milhaud.
Voilà, au cœur d'un quartier qui a été au cœur, justement, de ces événements qui ont duré 2 mois seulement dans notre histoire, mais dont on a gardé un héritage très fort.
Un autre acteur qui est avec nous, mais lui, c'est un acteur politique.
pour l'instant.
Pour l'instant, il s'appelle Philippe Nadjiboye, qui, comment ça va, qui est un élu régional pour les écolos.
Ouais,
ça va ?
C'est ça, je suis au pôle écologiste.
Dans quel état d'esprit vous êtes, là ?
Très combatif. Je suis serein, j'attends... le 22 janvier, pour moi, qui sera une date où...
C'est un feuilleton, votre histoire. Hein.
Bah ouais, ils l'ont scénarisé, mais voilà. Enfin, bon. Il y a des trucs qui sont pas cool. Il y a un journal dans le Val-de-Marne qui a été relancé en disant... on leur a envoyé un article, en disant, mais personne n'a commenté cet article. Il n'y a rien dedans. Mais ils sont obligés de faire leur taf, donc il n'y a pas de souci. On a répondu aux questions, on a donné tous les trucs, en espérant qu'ils seront plus justes. Bon. Mais bon, j'ai plus d'espoir.
Bon, écoutez...
J'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Hein.
Alors, pour le futur, heureusement d'ailleurs.
Évidemment.
Nous allons démarrer tout de suite avec ce premier sujet, les propos d'une déclaration d'Emmanuel Macron accordée donc aux Parisiens. Ouais. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Alors, messieurs, ça vous fait sourire, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on dit de tout ça ? Qui veut commencer ? Jean-Pierre Colombiès.
Sourire jaune, hein, j'ai plutôt envie de dire. Alors moi, ça me surprend sans me surprendre. Non, mais non, Emmanuel Macron nous a habitués...
Chef de l'État ?
Presque, c'est bien dommage. C'est pas digne, c'est justement, d'un chef d'État.
Non, il a droit à la clochette, là.
Digne de tenir des propos comme ça. On a déjà feuilletonné ça depuis Sarkozy avec Casse-toi pauvre con. On a eu droit à François Hollande qui parlait des descendants. On a eu droit à Benjamin Griveaux qui parlait des types qui buvaient de la bière et qui fumaient des clopes. Et aujourd'hui, je vais tout faire pour les emmerder. Je rappelle quand même qu'il avait déjà dit au moment de l'affaire Benalla, s'ils veulent venir me chercher, qu'ils y viennent. Est-ce qu'on est dans des prises de parole dignes d'un chef d'État, je ne crois pas, pour des raisons simples.
En tout cas, le patron des députés, Damien, a fustigé ses propos indignes, indignes et responsables et prémédités. Christian Jacob, qui s'est refusé à cautionner un texte qui vise à emmerder les Français.
Ils sont dans l'opposition directe.
Absolument, une crise politique déclenchée par le monarque présidentiel, ce qui permet d'insulter une partie des Français. Plein de déclarations, évidemment, des acteurs politiques.
Enfin, moi, ça me surprend pas non plus, parce qu'on a une démonstration depuis presque 5 ans de quelqu'un qui est convaincu de toute son emprise, qui, à mon avis, souffre d'une forme de narcissisme jupitérien, considère qu'il peut tout se permettre, que tout lui est autorisé. Il est convaincu d'une certaine manière qu'il sera réélu et qu'à partir de là, tout est possible. Et si l'idée était de toucher une forme d'électorat, parce qu'il sait que, effectivement, le poids de ce qu'il nous impose dans le cadre de cette pandémie, pose des problèmes à une grande majorité de personnes et donc d'électeurs potentiels, il doit imaginer que la violence de cette attaque va lui rallier bon nombre de personnes. Dans tous les cas de figure, pour moi, même si c'est une parole électorale, en tout cas, comme disait une certaine Valérie, un président ne devrait pas dire ça, tout simplement.
Parce qu'il n'est pas là.
Oui, mais voilà, mais il est pas là pour ça. Il est pas là pour fracturer la société. Elle est assez fracturée comme ça. Il y a bien contribué. Hein, je rappelle quand même que l'épisode des Gilets jaunes qui aurait pu être réglé en quelques jours, disons quelques semaines, a duré 8 mois, qu'on a eu droit à un déferlement de violence. Je pense que ces violences ont été quelque part sont arrivées de manière assez opportune pour justifier aussi, ou du moins conforter un certain pouvoir, une certaine forme de pouvoir. Mais là, c'est un autre débat, mais c'est lié. Tout ça, pour moi, est lié. On a eu droit à des formes de parole de ce président qui ressemblait plus à des prises de parole d'un pasteur évangéliste. Et après, tout de suite après, on a une forme de vulgarité un peu conviviale. Enfin, moi, ça me dépasse un peu.
C'est déstabilisant. Je vais écouter un autre point de vue, c'est celui de Philippe Nadjiboye.
Évidemment,
ça vous a surpris ?
Tu t'attends pas à ça après 3 semaines qu'il a fait son mea culpa en disant j'ai peut-être rejeté des gens donc je leur en ferai plus,
je m'excuse.
Etc. Donc ça sur ce coup-là, mais
c'est pas faux.
Sur le moment, évidemment, comme tout le monde, moi j'ai fait une petite parodie. Maintenant je commande plus, je prends quelques vidéos et puis je mets des petits trucs et
précautionneux.
Les gens ils se marrent assez bien, parce que je veux montrer une autre facette de la politique. On peut faire de la politique en se marrant, et surtout qu'il faut se marrer en ces temps très difficiles. Mais donc j'ai dormi entre temps, et ce matin je me suis réveillé, je me dis mais quel génie, mais quel coup de maître.
Pourquoi?
Parce que justement moi je discutais avec des potes il y a quelques jours, mais tu fais pas attention, et on te dit mais tu crois qu'on va revivre un couvre-feu, qu'on va se faire confiner, et tu dis quand tu vois les chiffres, quand tu vois les protocoles le dimanche pour le lundi pour les écoles, tu dis écoute, ça sent quand même le roussi. Et moi j'ai un pote qui n'est pas un pro-macroniste à mort. Il me dit mais ils nous font chier les antivax. putain, moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et je vais me retrouver confiné chez moi ou bloqué chez moi le soir parce qu'il y a une bande de cons qui veut pas se faire vacciner.
Ouais, ouais.
Ils nous emmerdent. Et mon pote, et c'est ce matin que j'ai... Oh, putain. Mais on aurait dit que... Excusez-moi l'expression. On aurait dit qu'il a envoyé des gens dans les cafés. Bien évidemment, tout le monde était assis. Et qu'il a pris les discussions de comptoir.
Ouais.
Les discussions du peuple.
Mais c'est bien
et
ça,
le peuple,
c'est bien
le
ça le problème. C'est bien ça le problème.
Ouais, mais stratégiquement, c'est super bien joué.
Alors, il appartient
c'est super bien joué, vous.
Ah ouais,
Jean-Pierre Colombien, je vous dis quoi. Non, alors, justement, moi, parlons-en.
Je parle pas sur le fond.
Non,
hein.
Non, j'ai compris. Stratégiquement, stratégie de camp, bien joué.
Oui.
Vous dites quoi?
Sur le coup, sur l'aspect café du commerce, on est d'accord. Simplement, si on se donne la peine un peu de réfléchir, 30 secondes, je parle pas pour les gens qui sont autour de cette table. Mais enfin, ça fait quand même des années que tous les ans, régulièrement, bien avant ça, bien avant l'épisode Covid-19, on nous parlait déjà de l'engorgement des services d'urgence, de la thrombose du système hospitalier, qui depuis une bonne trentaine d'années est mis en coupe réglée parce qu'on a mis en place, et là tous les pouvoirs sont responsables, on a mis en place une politique purement budgétaire du système de santé et donc du service public. Donc aujourd'hui, il se passe quoi?
Après, je vous donne la parole.
Il se passe quoi aujourd'hui? Il se passe tout simplement que ces services de santé qu'on a appauvris, et d'ailleurs pas que les services de santé, l'éducation et surtout la police, sont aussi, et la justice.
Bien sûr, n'oublions pas
la justice est dans cette situation. Ces systèmes de santé qu'on a appauvris, qu'on a vraiment mis sous le et d'ailleurs avec la création des ARS qu'on devait à Sarkozy et à Madame Bachelot qui aujourd'hui trône et rayonne au ministère de la Culture. On oublie que tous ces systèmes-là ont été mis en place pour établir des règles uniquement budgétaires et déshumanisées. Et donc on se retrouve avec des systèmes hospitaliers. Ben, dès qu'il se passe quelque chose de ce type-là, eh bien, ils sont engorgés. Ils ne peuvent plus répondre.
Alors, allez-y,
c'est
répondez.
Non, mais,
allez-y.
Mais ça, c'est indéniable.
Philippe Nadjibouyeg.
Là, vous prêchez un convaincu. Sauf que on est en période électorale. Macron se dit j'ai quelques points à prendre un petit peu à droite pour parce que son objectif c'est de se retrouver ou face à Zemmour ou face à Marine Le Pen. S'il se trouve avec Valérie Pécresse en tête à tête, ça risque d'être très compliqué pour lui. Moi je le pense.
Je pense aussi, oui.
Je pense qu'avec
peut-être même avec Marine Le Pen. Moi jamais je mets un joker dessus.
Non, parce qu'il y aura l'électorat de gauche se déplacera pour faire pas en grande partie, mais au moins 50% de l'électorat de gauche se déplacera pour faire barrage au Front
National. Et les 50% d'abstentionnistes.
Non mais
c'est pas faux.
Non mais ça compte.
Si, exactement.
Je veux dire que moi j'ai des copains qui vont pas voter, mais s'il y a un duel Macron-Le Pen ou un Macron-Zemmour, ils vont voter pour éviter cette catastrophe. Alors que s'il y a un duel entre Macron et Valérie Pécresse, on va dire entre gens de droite, débrouillez-vous entre vous, et lui il a pas de réserve de voix sur l'extrême droite, alors que Valérie Pécresse, elle en a beaucoup grâce à Ciotti.
On est d'accord.
Mais ce que je veux dire par là,
c'est pas gagné même avec Marine Le Pen.
C'est qu'effectivement,
c'est tout. Il a raison Jean-Pierre Colombier.
Là,
même avec Marine Le Pen, c'est pas gagné.
Ça va jouer à touche-touche, mais il passera un petit peu devant. Mais parce qu'on sera pas nombreux de gauche à se dire bon, on va voter blanc.
Non,
ou
mais s'absenter. Non, mais les électeurs de gauche risquent fortement de s'absenter.
Non,
de s'absenter.
Pas face
pardon,
à
s'absenter aussi.
À mais ce que je veux dire, sur tout à l'heure, effectivement, mais je reconnais cette nécrose qu'il y a aujourd'hui dans les services publics, et parce que les politiques libérales successives ont voulu réduire le nombre de fonctionnaires.
De droite comme de gauche. De droite comme de gauche.
Oui. Il y a pas de problème. Je dis c'est clair, net et précis. Sauf que là, on est dans un tunnel anxiogène, où on est en pleine déprime, on a envie de retrouver notre liberté.
Ouais.
C'est pour ça que je dis, moi, quand vous mettez quelqu'un au placard, il ressort pas plus intelligent, il devient fou quand vous êtes privé de liberté.
On joue avec le feu, d'ailleurs.
Mais stratégiquement parlant, franchement.
Mais vous l'entendez, il joue avec le feu?
Mais bien sûr qu'il joue avec le feu.
C'est vrai.
On nous impose le port du masque dans la rue, ce qui est, on le sait unanimement, c'est bien le seul point sur lequel l'ensemble des experts et des médecins, dont je ne fais pas partie, s'accordent à dire que ça ne sert strictement à rien. Or, les gens vous regardent quand vous portez le masque un peu de travers, ce qui est mon cas, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol.
On a du masque.
Non, mais c'est insupportable, disons-le. Ouais. Les gens vous regardent de travers. Donc, il instaure, et c'est pour ça que je lui repose cette prise de parole.
Il fractionne la société, il démonte les uns.
Mais c'est scandaleux.
Le clash. Mais oui, mais
le président.
D'accord, mais il va être élu, donc il va utiliser tous les stratagèmes.
C'est lamentable.
C'est lamentable. Je laisserai le soin à nos auditeurs 01 53 48 3000 de réagir aux propos et de déclarations d'Emmanuel Macron concernant je vais les emmerder, les non-vaccinés. Ça se poursuit 19h30. Tout de suite, c'est l'autre Quoi de Neuf avec le docteur Majid Soussine. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, docteur Majid Soussine. Bonsoir.
Il.
Vous savez que ça me fait plaisir de vous retrouver.
Mais le plaisir est partagé, d'autant que je suis un peu isolé en ce moment.
Vous êtes isolé ? Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher docteur ?
Bah écoutez, j'ai toujours été un garçon très positif, mais c'est la seule fois de ma vie où j'aurais pas dû le
dire. C'est l'arroseur arrosé, c'est ça ?
J'ai arrosé personne, qu'est-ce que vous allez raconter là ?
J'avais envie de faire une petite boutade, une petite vanne comme ça. Chef du service à l'hôtel, à l'hôpital Sainte-Camille. Vous êtes aussi au SAMU, sur le département du 93, mais également aussi aux Invalides chez les Militaires. Et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, eh bien, pour démarrer la toute nouvelle année à Cambronne. Cambronne qui, le militaire ?
Tout à fait, général d'Empire.
Ah !
Merde !
C'était quoi son prénom, Cambronne ?
Ah, là, vous m'en demandez beaucoup. Bon, hein.
Enfin bref, Cambronne, le militaire, on parle du
même.
C'est le militaire.
Bon. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai présenté mes vœux. Bonne année à tous. Santé, prospérité, conquête féminine pour vous, Adil, donc, car je sais que c'est important pour vous rassurer sur votre charme, sur votre charme de bellâtre de l'Atlas.
Il est fou. Vous démarrez fort, vous. Hein.
Ah oui, bonne année à tous, hein, sauf à Éric Zemmour, Marine Le Pen. Aux auteurs d'injustice, de persécution, de meurtre, de viol et aux emmerdeurs dont visiblement ça va être l'année du Noël de tous les jours.
Ouais, c'est ça.
Comme vous le savez, mon cher Adil, vivre en communauté n'est pas forcément facile. Le mariage en est la preuve et je rends hommage à mon épouse qui me supporte depuis bientôt un quart de siècle.
Oh, bravo!
D'ailleurs, elle commence à se lasser un peu. J'en profite pour faire une annonce personnelle. Je suis un jeune qui est blanc, non besoin, quinquagénaire, qui peut encore apporter
le
un peu
standard
de bonheur.
Va exploser, je vous le dis. Hein.
Ah, je vous remercie.
Vous avez la cote auprès des auditeurs.
Je vous remercie.
Docteur Majid, c'est aussi là.
Donc, je disais, la vie en communauté n'est pas facile. Et c'est souvent encore plus difficile en famille. Le père de famille et aussi la mère de famille sont proches de la sainteté, car ils doivent supporter ces petits êtres qui semblaient si mignons quand ils avaient quelques mois, voire quelques années, et qui se sont rapidement transformés en monstres exigeants et incapables de la moindre reconnaissance, ouais. Et à qui tout est dû. Vous voyez tout à fait de quoi je parle.
Oui.
Vous avez tous eu des envies de meurtre. Qui n'a pas rêvé d'étrangler ses enfants, qui ne les a pas privés d'argent de poche pour les emmerder un peu.
Oui, ça c'est vrai.
Emmerder, le mot est lâché. Il ne me choque pas, car moi je suis un vrai patriote. J'aime ce mot typiquement français.
Ah oui.
Cambronne l'aurait prononcé.
Ah oui, Cambronne, c'est vrai qu'il a dit merde.
La garde meurt, mais ne sort
pas.
Ah oui, ça y est, ça me revient, exact.
Ben voilà. Cambronne l'aurait prononcé alors que les Anglais lui demandaient de se rendre à Waterloo.
Les Britanniques, exact.
Georges Pompidou, premier ministre, l'aurait lancé à un jeune fonctionnaire de 34 ans, Jacques Chirac, qui lui apportait une montagne de décrets à signer et lui aurait dit « arrêtez d'emmerder les Français ».
C'était du off.
Notre président actuel, quant à lui, veut emmerder une partie de la population pour l'obliger à se vacciner. Eh bien, au moins, c'est clair. D'ailleurs, on a l'habitude d'être emmerdés. On nous emmerde avec des PV, des retraits de points, pour que nous respections les limitations de vitesse. On nous emmerde au lycée ou avec des heures de colle. Et on nous emmerde avec tout un lot de commandements tous les jours. L'idée se défend donc, même si le mot a pu choquer certains dans la bouche d'un président qui, tel un volcan, a parfois des éruptions. J'ai pour ma part, bien avant le président de la République, inventé pour moi-même un indice de mesure qui m'est personnel et que j'utilise avant de prendre une quelconque décision. L'indice de l'emmerdement maximal. Et quand il est atteint, je romps, je me sépare et je m'en vais au choix.
Ouais.
Les Français auront donc, dans moins de 100 jours, une occasion de nous dire s'ils ont atteint le degré maximal ou non d'emmerdement. La démocratie se fait dans les urnes et pas sur les plateaux.
Ouais, bravo, franchement.
Ben, bravo.
Bravo pour le billet d'humeur, effectivement, consacré à ce mot de
Cambronne.
Waterloo, j'allais dire, non, de
oui,
Cambronne.
Okay.
C'est Waterloo aussi, à prononcer Waterloo, absolument.
Dernier carré.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher docteur ?
Bah écoutez, de pas être trop emmerdé. ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que moi j'aspire à ce qu'on m'emmerde le moins possible. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pareil pour vous. Hein.
Exactement.
Mais j'espère que quand même on va pouvoir retrouver un peu de sérénité, une vie normale parce que c'est assez pesant l'activité professionnelle depuis 2 ans. Et donc on espère revenir à une vie d'insouciance où on rigole de nouveau, où on peut plaisanter, faire des blagues de carabin,
en
toute sérénité.
Oui, absolument, je vous l'accorde. On vous retrouve mercredi prochain sans faute avec une autre signature, un autre billet d'humeur, mon cher docteur.
Avec joie, mon cher Adil.
Merci, partagez notamment docteur Majid Soussine, que vous retrouvez tous les mercredis avec son billet d'humeur à 19h30. Nous allons marquer la pause pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Jean-Pierre Colombiès, avec Philippe Nadjibouriaki et vous aussi au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès, ex-commandant, et aussi aujourd'hui auteur que vous retrouvez donc au théâtre Darius Milhaud, Paris 19e, le samedi à 21h15 du 8 janvier au 19 mars 2022. Allez-y, ça s'appelle Le Testament d'un communard. Allez découvrir donc évidemment ce moment pour aller changer, évidemment, tout simplement, réfléchir et avoir une autre réflexion que celle qu'on est en train de traiter nous-mêmes. Philippe Nedjiboyeki qui est un élu, le conseiller régional qui est avec nous, qui représente donc l'écologie. Messieurs, autre déclaration, c'est celle, vous savez, du professeur Raoult. Il faut être clair, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il ne faut pas croire ce que dit la presse. Je vous propose d'écouter cet extrait. C'est professeur Raoult qui parle. Écoutez.
Il faut être clair, il n'y a pas d'évidence de contrôle de l'épidémie actuellement par les vaccins. Même si on court... Il ne faut pas croire ce que dit la presse. La presse, elle dit la vérité du jour. Donc, si ça diminue, c'est grâce au vaccin. Si ça augmente, ce n'est pas sa faute. Ou c'est parce qu'il faut faire une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième injection. On ne peut pas jouer comme ça sans arrêt. Non, ça a très, très bien marché, je vous promets. Bon, globalement, et d'ailleurs, d'une manière intéressante, je vous rappelle les déclarations de l'OMS. Clairement, maintenant, l'OMS dit, vous savez, il n'y aura pas de contrôle de cette épidémie par la vaccination. Un. Deux. La vaccination chez les enfants n'est pas justifiée. C'est pas moi, pas tout seul à le dire. C'est ce que dit l'OMS aussi. D'accord? Donc, je crois qu'il faut être raisonnable et que, actuellement, peu importe ce qu'on pensait, il y a bien, au départ, on pouvait penser un peu, chacun pensait un peu ce qu'il voulait. Et après, le temps trie et on voit bien ce qui se passe en réalité. Moi, tout ce que je dis ici, c'est écrit. Mon prochain livre ramènera tout ce que j'ai dit en 2021. J'ai honte de rien. Hein.
Il y va fort, hein. Est-ce que c'est une déclaration choc ou pas du tout, Jean-Pierre Colombiès?
Ça, on le savait qu'il n'hésiterait pas.
Alors, Jean-Pierre Colombiès?
Il n'avait peur de rien. Non, mais moi, je suis pas médecin ni épidémiologiste. Maintenant, historiquement, on va être clair, il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité d'épidémie qui peut être jugulée miraculeusement. Un virus, ça circule par nature. Donc, il faut s'en défendre du mieux possible par des vaccins, tant mieux.
L'immunité collective.
Si on a. Non, mais je peux pas répondre à ça. Je surtout pas rentrer dans un débat de...
Mais comment on doit comprendre la déclaration, du professeur Raoult?
Ben c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle, plus que moi, en tout cas, ça c'est sûr. S'il dit que ça n'est pas maîtrisable uniquement par les moyens qui sont développés aujourd'hui, c'est qu'il a probablement raison, ou du moins, il développe une certaine forme de vérité.
Oui.
Maintenant, sur la vaccination des enfants, est-ce qu'on fait subir aux enfants dans les écoles? Je me suis déjà exprimé là-dessus sur ce plateau. Je trouve que là, on perd complètement la raison en faisant supporter à des gamins de 6 ans ce qu'on est en train de leur faire subir dans les écoles. Port du masque, vaccination, alors qu'on sait que même vaccinés, ils peuvent être... porteur du virus et le véhiculer, et que parallèlement...
Vous êtes contre le port du masque pour les enfants de 6 ans?
Ah mais clairement.
Clairement.
Clairement, oui. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un enfant de 6 ans d'être, je ne sais pas combien de temps il reste dans le milieu scolaire, mais enfin un certain nombre d'heures. Vous imaginez ces gamins s'amuser dans les cours d'école avec un masque sur la figure?
C'est ce qu'on leur demande de faire.
Mais oui, mais pour moi, c'est aberrant. Voilà, c'est clairement aberrant.
Coup de gueule de Jean-Pierre Colombiès.
Que j'ai déjà poussé ici, que je repousse avec tout autant de vigueur. Je considère, à titre tout à fait personnel et en tant que parent, que c'est quasiment de la maltraitance. Parce que de toute façon, ils peuvent le véhiculer et ils ne peuvent pas tomber gravement malades.
Ouais. Vous savez qui c'est, Jean-Pierre Colombiès? C'est notre Christophe Barbier à nous, de Beurre FM.
Je vois ça avec son écharpe rouge.
Il vient toujours avec son écharpe rouge, toujours.
Mais la légende dit que Christophe Barbier s'est inspiré.
Ouais. Je suis pas certain d'être flatté par la comparaison.
On a notre Christophe Barbier à nous.
Je serais probablement jamais...
Christophe Barbier, il est pro-vaccinal, pro-passe sanitaire.
Ah bah allez, il est à bord.
Je suis pas anti-vaccinal. Je dis simplement qu'il faut raison garder et pas pondre des mesures uniquement pour démontrer qu'on fait quelque chose.
Philippe Nedjiboyeki, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, les propos?
Professeur Raoult. Oui. Mais je me rappelle que je crois que c'était l'été dernier,
oui,
où il invitait les gens à se vacciner.
Oui, ben on a eu l'interview exclusive ici.
Ben oui, on l'avait diffusé. Je me rappelle très très bien. Moi, j'essaie de l'avoir sur un autre plateau. C'est
dans les informés.
Mais Beurre FM, Adil Farkan qui peut te refuser, même Macron et tout.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais le truc, il est que je suis pas d'accord avec ça, parce que la rubéole, la rougeole, la varicelle,
la variole,
le BCG, le DT polio, fonctionne très bien. Donc oui, on peut éviter des pandémies, des épidémies grâce aux vaccins.
Là, il vous parle du Covid.
Alors du Covid, là,
bon, pas du Covid. Il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins.
C'est comparable à la grippe. Oui, la grippe, on la maîtrise pas.
Non. La grippe, on t'inocule la grippe pour que tu l'attrapes.
Oui, mais c'est pas le même.
Développer.
C'est pas le même. On peut développer avec un vaccin de la grippe. On peut développer.
Mais je veux qu'on aille un peu plus loin. Je veux qu'on décrypte cette déclaration. Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent dans ce qu'il dit?
Non, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'hier, il y avait quand même 300 000 aujourd'hui. 300 000, et je suis persuadé que dans les 300 000, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés.
Contamination à l'Omicron ou
on ne sait pas si c'est Omicron, mais en tout cas,
tout et n'importe quoi.
C'est pas que Omicron.
Mais on voit bien que majoritairement, ça est devenu majoritaire dans le pays, parce que le Delta après, c'est vrai qu'on rentre dans une période hivernale où c'est plus propice à la diffusion des virus, etc. Mais en vérité, nous, on est perdus. Le citoyen, il est.
Mais je crois que ce qu'il veut nous dire.
On a plein d'informations de partout, en plus de gens qui sont pas forcément médecins, etc. Et puis on a des médecins qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Et toi, t'es là, t'es au milieu, t'en peux plus, quoi. T'en as marre.
Mais justement.
Est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer un confinement?
Non, mais j'espère que non.
Ce serait de la folie.
Ça sert à rien. Puisqu'on peut quand même aller bosser dans la journée. Donc, un confinement, un couvre-feu à 21h. Alors, je suis venu comment, moi, ici? En métro. Il n'y a pas eu de confinement. Enfin, je veux dire, on est épaule contre épaule dans le métro. Peut-être pas trop aujourd'hui, mais ça, la plupart du temps.
Il y a un petit peu moins de monde.
Beaucoup moins de monde.
Sérieux, nous vivons. On en parlait hors antenne tout à l'heure, mais je veux dire, est-ce qu'on peut, au motif qu'un virus circule, et il faut insister là-dessus, qu'il n'est pas si mortel que ça, heureusement d'ailleurs, est-ce qu'on doit sacrifier la vie de 99% de la population pour 1% de victimes potentielles? Je ne dis pas que c'est bien d'avoir 0,1%.
C'est moins que ça d'ailleurs.
Oui, c'est moins que ça, mais est-ce que c'est normal? C'est la première fois dans l'humanité où on sacrifie l'existence et l'équilibre de sociétés entières au motif qu'un virus circule.
Je pose cette question en tant que naïf, pour le coup, qu'une politique courageuse.
Alors, question, oui, effectivement, posée.
Moi, si j'avais été président de la République, dès le départ, la première chose que j'aurais fait après le premier confinement où là il y avait un état d'alerte d'urgence et là on ne savait pas. Après le recul,
c'était mondial.
Non, mais c'est clair, il y a eu même une concorde nationale autour du président de la République. Mais il y a pas de souci là-dessus. Mais dès que la deuxième vague est arrivée, j'aurais confiné ou en tout cas j'aurais isolé les personnes fragiles. Et donc, moi, il faut réquisitionner des centres de vacances, les hôtels au bord de mer, etc., de manière digne, avec du personnel, avec des gens qui s'occupent des personnes fragiles, etc. Et essentiellement les personnes fragiles, et pas
99% de la population.
Parce que là, on les met dans une bulle sécurité, et puis nous, on nous laisse.
Parce qu'il faut quand même savoir, il faut le dire, que des personnes très, très âgées, je parle des gens qui ont plus de 90, voire 95 ans, refusent ostensiblement la vaccination. Absolument. Alors à un moment donné, il faut savoir. Est-ce que Emmanuel Macron parlait d'eux quand il parlait des indignes qui ne se vaccinent pas? Est-ce qu'il sait que des gens très très âgés refusent de ça? Je pense pas. Je suis pas sûr.
Il a fait un coup électoral, un coup politique. Je dis bravo sur le milliard.
Pour moi, c'est pas glorieux.
C'est pas glorieux et c'est cynique. Et quant à Philippe Nedjibouaki, il dit que c'est un coup de com.
Messieurs,
dernier sujet que je voudrais quand même, parce que l'heure, on approche quand même à la fin de cette émission, désinformé. Gims et la bonne année, vous avez suivi quand même?
Évidemment.
Oui, la bonne année, évidemment. Valérie Pécresse qui condamne un discours séparatiste. Est-ce qu'elle a eu raison de dire cela? Est-ce que c'est son rôle aussi de dire ça? Parce que Gims, disons-le, il avait soutenu en pleine période régionale, élection régionale, Valérie Pécresse. Alors, elle dit, je lui ai dit que j'étais très déçu.
Je pense qu'elle juge les propos de Gims séparatistes.
Philippe Nedjibouaki.
Alors, je les juge, moi, ultra débiles et ultra stupides. Mais a fortiori, j'ai des élus qui me critiquent, puisque à chaque fête religieuse ou pas, je me mets en scène et je fête et je souhaite une bonne fête. Là, j'ai souhaité un joyeux Noël. Je vais souhaiter un joyeux Yannayer dans quelques jours. Demain, je vais souhaiter l'épiphanie officiellement. Mais parce que je considère que la France c'est ça.
Et après il y aura le nouvel an chinois.
Mais oui, ni à Roma sous sa chien, chinen quoi le, c'est bonne année en chinois. Et après il y a l'an père, etc. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est des moments où on peut découvrir les cultures des autres. Et moi quand j'ai un maître Gims qui vient, qui veut faire parce qu'il est converti, donc il est plus musulman qu'il est musulman, qui est là, qui raconte n'importe quoi dans une bagnole de luxe avec une casquette Chanel. S'il te plaît cousin, tais-toi. Non mais là on a assez d'emmerdes comme ça, on n'a pas besoin que tu nous en rajoutes.
Ah, vous y allez, vous. Clochette, ah ouais, il a droit à la clochette.
Ah ouais, j'ai dit comme Macron.
Ouais. Jean-Pierre Colombiès.
Ouais, je rejoins complètement ça, mais je trouve même qu'on lui donne trop d'importance. Mmh. Clairement. Pécresse
qui dit qu'elle juge ses propos séparatistes et qu'elle dit clairement aussi d'être déçue, très déçue.
Oui, mais je crois qu'il faut le ramener là, enfin, il faut le laisser là où il est, tout simplement. C'est un chanteur, ok, bon, effectivement, moi j'ai souri, j'ai rigolé même quand je l'ai vu.
Mais moi, je crois que c'est une blague, je crois que c'était pas lui.
Ses lunettes de soleil.
Sa casquette Chanel. Moi, je crois que c'était un.
Non, mais j'ai cru que c'était un gag. Moi, je crois que c'était un gag aussi avec sa casquette Chanel. J'ai trouvé grotesque, clairement. J'ai même pas vu de séparatisme. Faut pas lui donner autant d'importance que ça.
Moi, j'ai pas vu de séparatisme aussi.
Mais moi non plus, enfin, je veux dire.
Il faut qu'elle drague un petit peu sa droite conservatrice.
Il draguait des auditeurs musulmans, c'est ça?
Je crois que même les musulmans.
Mais quel est l'intérêt?
Il s'adresse, il l'a dit, il s'adresse à ses frères musulmans.
Donc il n'a pas de chrétiens qui écoutent ses disques, je sais pas.
Non, parce qu'il est converti, etc.
Donc il faut plus que les chrétiens écoutent ses disques alors.
Non, mais je sais pas.
Ce que je veux dire, c'est débile.
Non, mais c'est la troisième dose, ça a dû le frapper. Comme ça, mais, non, mais les musulmans, on n'a pas besoin de gens comme ça qui représentent les musulmans, qui parlent au nom des musulmans.
Vous avez le droit à une clochette, ça va pas ou quoi? Ça craque dans le studio, là. Les amis, on se ressaisit.
Non, mais Adil, moi, je connais pas un musulman qui souhaite pas un joyeux Noël à son pote chrétien ou qui fait pas aussi Noël. Nous, on fait tout à la maison.
Mais lui, il parle pas de souhaiter, il dit que voilà.
Faut pas lui souhaiter à lui.
Faut pas fêter la nouvelle année.
Inch'Allah, tu montes plus de disques. Moi, je continuerai à écouter Maître Gims parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime dans son flow. Mais je trouve que cette phrase est complètement stupide et on n'a pas besoin de ça. Et quand t'as une droitisation extrême de la France,
c'est un
problème comme ça, s'il te plaît.
Faut pas en rajouter.
Voilà, merci.
Mais surtout avec cette mise en scène qui était.
Grotesque, il est dans une voiture à 300 000 euros avec des spotlights derrière. Enfin, je te jure, je croyais que c'était un fake au début. Le mec, il lui ressemble un petit peu. Et puis après, je vois tout le monde qui s'en bat. Je dis, d'habitude, je suis toujours.
Il a craqué, Philippe l'a dit,
je voulais faire un truc, un montage vidéo, etc. Je me dis, mais non, c'est pas lui, je vais m'afficher, tout le monde va se foutre de moi.
Mais par contre, c'était une jolie pub pour les produits d'Olivier Chanel.
Ouais.
Enfin, jolie pub. Je suis pas sûr de m'acheter la même casque.
Ah ouais, non, mais moi non plus, elle est affreuse en vérité. Un minimum de décence.
Est-ce que Valérie Pécresse a eu raison de recadrer Maître Gims? Enfin, Gims, on dit plus Maître Gims.
Oui, c'est vrai. Il a changé.
Alors?
Elle est dans son couloir. Elle a un public qui est de droite, réactionnaire et conservateur. Elle veut pas le perdre, donc. Elle fait le job. Elle était très contente cet été, au régional qui l'appelle à voter pour elle. Je suis pas sûr que ça a fait bouger beaucoup de jeunes, mais en tout cas c'était un bon coup de com. Moi j'étais en face, j'étais dégoûté que Gibbs s'appelle à voter pour elle. Je lui dis la vérité. Ouais. Donc c'est bravo, bien joué. Et puis il a une association qui était quand même soutenue par la région, donc je dis pas qu'il y a une cause à effet, mais en tout cas ça peut aider. Mais là effectivement, aujourd'hui dans la politique c'est le politiquement correct et surtout le principe de précaution. Donc dès qu'il y a un truc,
c'est aussi le piège de chercher des soutiens. C'est aussi le piège de chercher des soutiens un peu tous azimuts, un peu partout, de gens qu'on connaît pas vraiment d'ailleurs. Mais bon, moi je lui ferai pas de reproche de se retrouver avec ce genre de soutien. Bon, elle représente un parti qui réunit quand même des milliers d'individus. Les socialistes ont certainement leur cas particulier. Enfin, tous les partis ont des cas particuliers dans leurs adhérents et donc de fait dans leur soutien. Donc on maîtrise pas vraiment les prises de parole comme ça, qui sont totalement autonomes du reste, parce que il a fait son propre chef.
La gauche bien pensante a commencé à taper sur Valérie Pécresse. Vous avez vu votre soutien?
Oui, mais ça,
voilà.
C'est moins grave que je vais les emmerder. Marlène
Schiappa a quand même fait
Oui, c'est la première sortie, c'est ça. Donc Valérie Pécresse, le principe de précaution, j'ai rien à voir avec lui, je suis pas content, je l'ai appelé.
Par contre, ça c'est maladroit de dire j'ai rien à voir avec lui. Pourquoi? Pourquoi dire ça? Dire oui, c'est un de mes soutiens, mais je maîtrise pas ce qu'il raconte comme conneries, oui, effectivement.
Elle n'est pas responsable, tout simplement.
Exactement.
Elle n'est pas responsable.
Elle était quand même beaucoup plus solidaire avec Georges Tron, qui est quand même en prison pour viol, etc.
Et un certain Nicolas Sarkozy qui en est à sa troisième condamnation.
Non, mais blague à part, moi, je sais pas que j'ai applaudi, mais je suis admiratif des gens qui sont loyaux et fidèles à leurs amis, même quand leurs amis sont dans des situations difficiles, etc. Tu vois, nous, à ELV, il y a un principe de précaution, t'as pété, ça sort dans la presse, t'es mis de côté. Moi, j'en parle de sorte de cause. Esther Benbassa, c'est la même chose. Et nous, c'est
surtout chez
présomption de culpabilité.
Voilà, ça j'ai pas apprécié du tout par contre.
Mais on est d'accord.
La prise de parole de Jadot sur ce point de vue-là, elle est complètement
Je suis d'accord,
hallucinée.
Je suis pas du tout d'accord avec
C'est-à-dire
ça.
Qu'il suffira d'avoir des présomptions pour écarter quelqu'un du parti. Je suis désolé, c'est quoi c'est
du gouvernement, il a basé du parti du gouvernement, mais ça revient en même
puisque ça n'a pas de sens.
Non mais là-dessus,
si on se base sur la rumeur,
j'ai pas
jugé moralement quelqu'un. Il est déjà assez lamentable de voir que des procès d'intention soient faits sur des plateaux télé ou autres. Je trouve ça nul. Moi, si quelqu'un est coupable, je pense notamment à la polémique avec Hulot. Si le type est coupable, on n'a pas à le défendre. Mais c'est pas sur un plateau télé qu'on doit faire un procès.
Le mec, ça se règle en audience,
ou correctionnelle, ou aux assises. Mais pas sur un plateau télé. Et dire que parce qu'il y a une rumeur, autrement c'est trop facile. Il y a une rumeur, ah bah tiens, on dégage.
Moi, je suis sûrement minoritaire parce que nous, aujourd'hui, maintenant, lorsque il y a un groupuscule qui est en train de prendre le contrôle de mon parti, et donc il y a des vraies questions à se poser pour le futur, et que je m'en pose à titre personnel. Pour moi, ce qui fait foi, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On pourrait dire droits de l'homme et de la femme, moi, j'ai pas de souci là-dessus à modifier tout ça, mais l'article 9 dit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée coupable. Et je crois que si on bafoue les règles du
c'est
droit...
C'est la porte ouverte à tout.
On est mort, on est tous morts.
C'est la porte ouverte à tout.
Ouais.
Parce que ceux-là même qui accusent aujourd'hui peuvent être les coupables de demain. Et donc, il peut y avoir un coup de balance terrible à ce niveau-là.
J'ai eu une discussion avec un pote, j'ai dit, mais ça veut dire que si demain... Parce que, bon, parallèlement, on m'a renouvelé ma carte de presse pour 2022, donc à l'Union de la presse francophone internationale.
Eh bien, je ne savais pas ça, je découvre.
Alors, je ne sais pas comment on fait quand on fait le petit, est-ce qu'on a toujours le droit d'être journaliste, etc. Enfin, moi, je ne suis pas journaliste, je suis plutôt un liveur.
D'autres l'ont fait.
Oui. Non, mais moi, je le fais.
Je ne suis pas pour le faire.
Et puis, si ça ne leur plaît pas, c'est pareil, c'est la même. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc demain, si je sors un article sur le site de Beurre FM, par exemple, avec que des témoignages anonymes de gens qui disent qu'ils ont été agressés par Yannick Jadot, il fait quoi ? Il abandonne.
Mais ça a été la porte ouverte justement à grand battant par des gens du gouvernement actuel avec MeToo entre autres, qui partaient d'une bonne intention.
Bien sûr, mais
qui partaient d'une bonne intention pour libérer la parole, et ça c'est important. Mais il faut la contrôler, la parole. Il ne faut pas que ce soit ouvert à tous les vents et au règlement de compte les plus bas, les plus lamentables. Parce que professionnellement, j'en ai connu, moi, de ces règlements de compte. Et il faut se méfier de ça.
Mathieu Orphelin, l'exemple le plus dingue, Mathieu Orphelin, qui était le responsable des porte-parole de Yannick Jadot, a été écarté de la campagne. Alors, il souhaitait aussi partir parce qu'il y avait des dissensions, il n'était pas d'accord avec la stratégie. Et je peux comprendre, lorsque je vois les sorties de route de Sandrine Rousseau ou d'Alice Canfin, moi, à un moment donné, je dis stop, arrêtez les filles, c'est quoi votre délire, stop, si vous n'êtes pas content, vous changez de crèmerie. Ok? Faut être à un moment donné cash et clair. Mais pour ça, il faut un capitaine. Et si c'est pas la nature à avoir du vide, si c'est pas Jadot le capitaine, ça sera forcément quelqu'un d'autre. Et donc, il y a une pression pour dégager Mathieu Orphelin.
Ouais. Bon, on est loin du sujet, Gims, là, vous l'aurez remarqué.
Mais c'est pas grave,
j'ai laissé s'installer, j'ai vu que vous étiez passionné.
Parce qu'il était l'ami de...
Ouais, mais ça rejoint, débat rejoint un peu le premier thème qui était les prises de parole d'Emmanuel Macron. Parce que je rappelle quand même que cette idée de dénonciation de tout et de n'importe quoi est née aussi avec Dénonce ton maire sur le nombre de postes réservés aux femmes. C'était Chem, Onio, enfin bref, Dénonce ton maire, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est parti de là, où tout le monde est dénoncé dans n'importe quelle condition le maire qui ne respectait pas les fameuses chartes. C'était un appel à la dénonciation, mais tout azimut, et sur les réseaux sociaux. Donc on a eu droit à un déferlement de règlement de compte, et ça c'est malsain. Je veux dire, ça nous ramène à des époques terribles.
Absolument. Merci messieurs.
Merci à vous.
Passionnant, on a envie de vous écouter pendant des heures.
Merci.
C'est le plateau qui le permet.
Je rappelle pour
l'émission.
Merci à Philippe.
Résolution, il faut passer à 2 heures.
Exactement. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Rappelez le patron.
Au moins 1h20.
Philippe Ladji-Boryeki, le conseiller régional, merci à vous. Donc il représente les écolos. Merci aussi à Jean-Pierre Colombiès qui est au théâtre, le théâtre Darius Milhaud. À partir du samedi, ce samedi-là, 21h15, du 8 janvier au 19 mars, allez-y, courez. Ça s'appelle le testament d'un communard. Il faut vraiment y aller parce que d'abord c'est bien, parce que ça fait travailler un peu les neurones et puis ça nous amène à une vraie réflexion. C'est ça, Jean-Pierre ?
C'est tout à fait ça.
Eh bien, c'est samedi donc au théâtre Darius Milhaud. Merci à la réalisation à Yanis. À demain avec autant de plaisir, vous le savez. On ne lâche rien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.